Donc, bienvenue au premier cours de la chaire Savoir contre pauvreté sur le thème cette année de la géopolitique de la santé mondiale. Donc, très rapidement, pour présenter les objectifs donc, de la chaire cette année, vous aurez une présentation de l'analyse de situation sanitaire des pays en développement, la réponse des systèmes de santé, les pays, comment les pays ont répondu à cette situation, répondent à cette situation. Comment ce que prévoient les politiques internationales d'aide au développement, avec toujours l'idée de réfléchir à une meilleure efficacité de l'aide. Et en même temps, nous verrons aussi des questions de recherche pour le développement en lien avec le développement de médicaments, l'accès aux médicaments, les questions de propriété intellectuelle. Donc le contexte des pays à propos desquels nous allons intervenir, enseigner, c'est le contexte de développement, mais aussi le contexte humanitaire de pays en situation de conflit armé et de post-conflit. Donc vous aurez des cours qui auront des situations et le thème du colloque qui feront référence à ces deux contextes. L'objectif est de valoriser la pensée, les savoirs de praticiens scientifiques et politiques des personnes de ces pays, des personnes du Sud que vous aurez l'occasion de rencontrer, donc, soit lors des séminaires, soit lors du colloque que nous organisons le 17 et 18 juin sur le thème de la politique étrangère et de la diplomatie de la santé mondiale. La concentration géographique est l'Afrique, mais pas seulement. Des intervenants du Brésil, de l'Inde, d'autres régions interviendront également. Vous pouvez venir, comme vous le savez, au cours et au séminaire et pas au cours. Vraiment, vous êtes totalement libre de faire vos choix pour assister à l'un ou à l'autre. Les supports de cours seront disponibles en ligne et les cours seront enregistrés, mais pas filmés. On préfère filmer le colloque dans le cadre du petit budget dont on dispose de la chaire. Donc le colloque international sera filmé, les cours seront enregistrés. Alors, aujourd'hui, c'est le cours d'introduction sur ce qu'on entend par... Ah non, il y a un problème de son. Je vais essayer de parler plus fort. Et je suis désolée, mais comme j'ai été un peu grippée, j'ai une voix un peu prise. Et donc, je vais essayer tout de même de parler fort et clairement. Et vous me verrez boire assez souvent pour garder la voix jusqu'au bout. Je vous prie de m'en excuser. Et voilà, donc la grippe n'épargne personne et circule beaucoup en ce moment, comme vous le savez, chacun. Alors aujourd'hui, contour, ambivalence et risque de la notion de global health. Qu'est-ce que c'est que cette notion de global health, d'où ça vient? Mon plan de cours, donc on va s'intéresser à l'émergence de cette notion, aux dimensions qui donnent son caractère mondial à la question de la santé, notamment à la veille du nouveau millénaire. En troisième point, on verra comment les scientifiques au niveau international s'entendent tout de même autour d'une définition commune de la santé mondiale qui regroupe sinon beaucoup de concepts un peu flous pour l'instant. Ensuite, nous verrons les évolutions institutionnelles, donc des réponses internationales de l'aide au développement dans le domaine de la santé et en quoi, qu'est-ce qui est nouveau finalement dans ce paysage institutionnel en réponse à la situation sanitaire des pays. On donnera, si on a un peu de temps, l'exemple du Fonds mondial, qui vraiment illustre très très bien le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, qui illustre très bien ce que c'est qu'une initiative mondiale et comment ça marche au niveau du pays. Ah, il y a un petit problème tout d'un coup. Ça part. Excusez-moi, je reviens là. Parce qu'il y a un problème technique. Voilà. Et enfin, donc, quels sont les risques de cette globalisation des questions de santé? Alors, tout d'abord, l'émergence de la notion de global health. Alors, j'ai longtemps cherché où on parlait de global health pour la première fois, de santé mondiale. Et finalement, il y a une très grande revue de littérature, donc beaucoup de publications depuis une dizaine d'années sur Global Health et dans différents pays et par différents chercheurs. Et finalement, c'est cette publication donc, des États-Unis, America's Vital Interest in Global Health, qui a été publiée en 1997 par Institute of Medicine, aux États-Unis, qui est un institut en lien avec l'Académie des sciences aux États-Unis et qui est conseillé pour les questions scientifiques auprès de la politique sanitaire des États-Unis. Alors, ce document est donc le premier à mentionner la question de Global Health et l'explique comme ça. Les nations du monde ont trop en commun pour que la santé soit considérée comme une question relevant du niveau national. On est alors en plein dans les élans de la mondialisation, le début des années 90 ou milieu des années 90. Un nouveau concept de santé mondiale est requis pour traiter des problèmes de santé qui transcendent les frontières, qui pourraient être influencés par des circonstances ou des événements se produisant dans d'autres pays, auxquels de meilleures interventions et solutions pourraient être envisagées en coopération. Donc c'est l'idée que tout ce qui se passe maintenant à l'autre bout du monde en termes sanitaires nous concerne, que ce soit les maladies infectieuses ou d'autres problèmes liés au tabac, à l'alcool, maladies chroniques, à l'exposition à différents risques, nous concerne tous dans une totalité désormais mondiale liée à la mondialisation. Donc la mondialisation économique et le transfert de risques avec la mobilité de la population, la croissance démographique, la transition épidémiologique, la pauvreté, etc. Alors, je vous l'ai mis en anglais parce que c'est vraiment le terme de Global Health qui est donc, apparaît pour la première fois et entre guillemets donc, dans ce rapport, qui dit aussi les risques sont transférés et le sida, HIV, is by far the most important. Le sida est vraiment de loin la maladie la plus importante des nouvelles infections dans ces années-là. Le sida qui démarre, vous savez, une nouvelle maladie au début des années 80 aux États-Unis puis en Afrique, mais qui explose littéralement, qui échappe donc aux stratégies internationales dans les années 90 et qui motive aussi l'intérêt donc de Institute of Medicine comme des institutions de l'ONU qui vont se réformer pour étendre au-delà de l'OMS la responsabilité de la lutte stratégique internationale en créant l'ONU-SIDA, le programme conjoint des Nations Unies pour le SIDA qui va regrouper 10 agences de l'ONU pour s'intéresser aux stratégies de SIDA et pas seulement l'OMS qui jusque-là était responsable et en charge du programme mondial SIDA qui était donc jusque entre 87 et 96 la charge de l'OMS seulement. À partir de 1996, c'est l'ONU-SIDA, ces 10 agences avec la Banque mondiale qui ont la responsabilité internationale de la lutte contre le SIDA. Donc vous voyez l'extension au niveau du dispositif des Nations Unies parce que cette maladie donc, se propage, des millions de gens sont atteints, 3/4 sont en Afrique. Alors, le contexte donc, de publication de ce rapport, America's Vital Interest in Global Health, c'est vraiment la préoccupation de Bill Clinton aux États-Unis dans ces années-là et la publication de sa directive de décision présidentielle qui demande une stratégie des États-Unis plus centrée sur la lutte contre les maladies infectieuses en général et donc au niveau mondial et pour les États-Unis. Et vous avez ce rapport du NIC, du National Intelligence Council, que j'évoquais donc, lors de la leçon inaugurale, qui est donc le premier rapport vraiment concernant les maladies infectieuses et en quoi c'est une menace et ses implications donc, stratégiques pour les États-Unis. Donc on est dans ce contexte à ce moment-là, Institute of Medicine, la directive présidentielle de Bill Clinton et le rapport du National Intelligence Council, qui est le rapport des services secrets du gouvernement, donc au gouvernement américain, alertant sur les maladies infectieuses pouvant être une menace pour la sécurité nationale. Alors, quels sont les éléments qui donnent son caractère mondial à la santé ? Clairement, les caractéristiques de la mondialisation s'appliquent à la santé. Si on énumère très brièvement 5 critères qui sont reconnus comme étant des caractéristiques de la mondialisation, ils s'appliquent complètement à la question de la santé et à la question de la santé mondiale. Alors, pour l'instant, j'ai choisi de traduire Global Health par santé mondiale et pas santé globale, parce que Global, en anglais, c'est mondial, la traduction, la vraie traduction. Mais c'est une proposition. Le monde francophone, et en particulier en Afrique, ne s'est pas encore complètement approprié le terme de global health ou de santé mondiale ou de santé globale. C'est, je pense, à chaque pays, à chaque zone, de nommer ce qu'il entend par ce nouveau concept. Et c'est très important en termes d'appropriation, de définition de contenu, que les pays ou que les régions nomment le concept comme ils le pensent le plus intelligible et correspondant le mieux à cette évolution. Bon, je vais proposer santé mondiale, mais en Afrique, on peut très bien parler de santé globale ou santé totale. Enfin bon, j'ai entendu différentes interprétations récemment entre Abidjan et à Dakar où j'étais ces dernières semaines. Voilà, donc ces caractéristiques de la mondialisation qui s'applique à la santé, c'est l'internationalisation en dehors des frontières. Donc vraiment la circulation des maladies, mais des produits, des médicaments, etc. La libéralisation facilitant les échanges en dehors des restrictions des États pour créer un marché économique mondial ouvert. Troisième critère, l'universalisation permettant le partage d'expériences et de savoirs à l'échelle mondiale, beaucoup de facilité par les technologies de la communication et de l'information. La détériorisation, où la géographie importe moins que l'ampleur des sujets, on le verra après quand on abordera la question de la définition commune de la santé mondiale, on verra en quoi la géographie, la concentration géographique, donc des pays en développement par exemple, importe moins dans la question de santé mondiale que la question de l'ampleur des sujets et qui concerne du coup le monde entier. Et puis l'occidentalisation et la modernisation de la vision des approches. Occidentalisation, oui, on voit bien donc que ce concept émerge dans le monde occidental. Et qu'est-ce qu'il signifie dans le monde des pays en développement? Comment ils se l'approprient et comment? Donc c'est important, pas en termes sémantiques seulement, mais par rapport aux réponses qu'ils vont pouvoir apporter à des problèmes qu'ils vont percevoir communs ou pas communs, justement. On va en discuter. Alors, à part ce texte que je vous ai présenté, donc, il y a à la fin des années 98 pas mal de publications et surtout Jill Watt à Londres, qui est à la London School of Hygiene and Tropical Medicine et qui publie un article un peu fondateur aussi, Globalization of International Health. Voilà, ici, qui est publié dès 98 et de même Yack en 98, un petit peu avant, où tous les deux donc font référence aux questions de mondialisation et au fait pour Jill Watt que ces conditions de mondialisation des marchés, etc., de nouvelles coalitions et alliances se forment pour examiner et traiter des conséquences de ces effets donc de la mondialisation sur les questions de santé. Alors, je vous donne des exemples. L'idée, c'est donc, à des problèmes communs, envisageons des réponses collectives. On ne peut plus tout seul répondre à la situation compliquée de phénomènes qui se passent dans différentes parties du monde. Donc, des exemples de problèmes communs. Les épidémies émergentes sont typiquement une question de santé mondiale. Ça, on le comprend très, très facilement, très, très bien. Donc, les épidémies, en plus, dans les dix dernières années, émergence de l'épidémie de SARS, de H5N1, de H1N1. Donc là, on a vraiment assisté à des phénomènes typiquement collectifs et mondiaux. Le sida, le paludisme et la tuberculose sont considérés comme des maladies concernant le monde entier parce que dans le début des années 2000 ou à la fin des années 90, ces trois maladies tuent plus de 6 millions de personnes par an dans le monde. Et donc, elles sont extraites comme vraiment faisant partie des priorités des stratégies internationales sanitaires. Mais vous avez également des problèmes communs autour de facteurs de risque de tabac, alcool, obésité, sédentarité, donc des facteurs de risque des maladies non transmissibles, des maladies chroniques, cancer, maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires, etc. Donc tout ça, ce sont vraiment des thèmes communs. Cependant, la question de la prise en charge mondiale et de l'inscription donc, des maladies non transmissibles au niveau de l'Assemblée, à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui était donc l'année dernière en septembre 2011, vous voyez que ce n'est qu'en septembre 2011 que la question des maladies non transmissibles, ces maladies chroniques est portée au très haut niveau dans l'agenda international. 10 ans après le sida. Le sida est traité au niveau du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale des Nations unies en 2001. On l'a vu aussi à la leçon inaugurale. En 2011, la question des maladies non transmissibles, donc beaucoup, beaucoup plus tard. Donc les questions de globalisation, elles précèdent la question de l'uniformisation des profils épidémiologiques. C'est-à-dire que jusque-là, les maladies chroniques étaient l'apanage des pays en développement et les maladies infectieuses, des pays développés, je veux dire industrialisés, pardon, pour les maladies chroniques. Et les maladies infectieuses étaient plutôt retrouvées dans les pays pauvres, les pays en développement. Et depuis une dizaine d'années, les maladies chroniques augmentent, l'ampleur des maladies chroniques augmente considérablement dans les pays émergents et les pays pauvres. On n'a pas encore mesuré l'ampleur donc, de ces maladies chroniques dans les pays pauvres notamment, mais on assiste là à une transition épidémiologique et à une uniformisation des profils entre les pays du Nord et les pays pauvres. Et cette uniformisation fait partie de la globalisation de la santé, mais vous voyez que le concept naît avant, et 10 ans avant, et même 15 ans avant, en 1997, donc publication, mais un petit peu avant, cette question d'uniformisation des profils. De l'épidémiologique. Donc il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte que les mêmes profils de maladies. La pénurie des soignants est aussi une question à traiter au niveau mondial parce que elle est partout. Elle est en Afrique, mais la pénurie de soignants, elle est aussi chez nous. Et la question de la répartition des soignants entre la ville et la campagne entre la ville et la brousse. Bon, ce sont des problématiques vraiment très voisines. On ne peut pas dire que les... Bien sûr, la pénurie est beaucoup plus importante dans les pays d'Afrique, qui rassemblent d'ailleurs un quart de la pénurie mondiale de soignants. Sur 4 millions de soignants manquants, 1 million manque en Afrique. Donc elle est beaucoup plus importante dans les pays en développement, mais elle existe aussi dans les pays industrialisés. Donc elle est typiquement une question mondiale parce que les personnels aussi sont formés au Sud et parfois migrent et parfois s'en vont et sont même recrutés par les pays du Nord activement. Ce à quoi l'OMS a répondu en rédigeant donc le code de conduite de l'OMS pour le recrutement des personnels de santé pour prévenir justement ces recrutements actifs et maintenir les soignants formés au Sud pour les pays du Sud. Donc vous avez d'autres exemples sur les questions de migration, donc de la santé des migrants. C'est aussi une question de santé mondiale, donc d'urbanisation et santé, parce que la question de l'urbanisation est en train de... Enfin, il y a beaucoup plus d'urbanisation. Maintenant, 50% de la population mondiale, voire plus, vit dans les villes. Retentissement sur la santé de politique commerciale ou agricole, et puis le retentissement sur la santé du changement climatique est typiquement une question de santé mondiale également. Donc vous voyez, c'est très très divers. Alors classiquement, on ne met pas les prisonniers. Moi, j'inclus les prisonniers dans les questions de santé mondiale. Ils sont 10 millions dans le monde, c'est quand même majeur, et ils ont de très graves problèmes de santé et très nombreux. 30 à 40% des prisonniers dans certains pays sont malades. Ils sont aussi très souvent porteurs de maladies chroniques dont on vient de parler. Donc, ils font partie de... Vraiment, on doit les inclure en tant que population, bien sûr, dans les réponses à la santé mondiale. Alors, je viens de vous énumérer, donner un exemple de toute une série de problèmes communs. Maintenant, il y a toute une série de solutions élaborées de concert ensemble au niveau international, dont le règlement sanitaire international en 2005 qui a été révisé au niveau mondial, où les États membres de l'OMS ont contribué activement à sa révision, donc pour alerter sur l'émergence d'une nouvelle maladie et puis activer la réponse à cette émergence. Donc une concertation très importante à ce niveau-là. Vous avez une stratégie commune donc mondiale pour le sida qui s'appelle Towards Universal Access et qui est un programme conjoint OMS, ONU SIDA et UNICEF. Donc là aussi, une réponse collective, beaucoup plus collective. Bon, tous les partenaires interviennent aussi, Banque mondiale, Commission européenne, etc. Mais il y a un rapport, un rendu compte particulier sur la réalisation des objectifs de lutte contre le sida par ces trois instances. Vous avez aussi la Convention internationale anti-tabac, qui est aussi une convention internationale collective donc de réponse sur ce problème de santé. Pas encore, à ma connaissance, de convention anti-alcool, mais une évolution vers ça, des discussions au niveau international vers ça. Les questions d'accès aux médicaments, de couverture universelle, là, c'est vraiment la dernière résolution et stratégie internationale, couverture universelle et protection sociale, donc typiquement une réponse mondiale collective. Voilà autant d'exemples, la recherche pour le développement, bien sûr, et les financements innovants, on va revenir dans quelques minutes là-dessus. Alors, la question de l'expertise, formation et savoir, c'est aussi une question de l'accès à l'expertise, une question mondiale d'équité, et la question d'équité et justice en santé globale. Alors, on n'a pas l'habitude de le penser comme ça, mais l'équité est une valeur philosophique de la santé publique et de la santé mondiale. Et la question donc de l'équité, de l'accès à l'aide également fait partie d'une vision, d'une réponse envisagée mondialement aux situations. Alors, pour une définition commune de Global Health, étant donné les différentes cultures de développement d'un côté, de santé internationale de l'autre, de santé publique, certains auteurs on souhaitait proposer à la communauté internationale une définition commune de la santé mondiale, de Global Health. L'article que je proposerai de mettre en ligne s'appelle, donc c'est référence James Copeland et ses collaborateurs, il s'appelle Towards a Common Definition of Global Health. Donc allons vers une définition commune finalement, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, pourquoi une définition commune? Mais vous imaginez aussi en termes de formation et de développement d'expertise. C'est quoi une expertise en santé mondiale? Donc, il faut bien qu'on s'entende, non seulement pour répondre stratégiquement aux problèmes, mais aussi pour former à une expertise et, dans ce domaine, à l'université et en formation continue pour les praticiens. Donc, il propose donc une définition commune en rappelant que c'est déjà la santé publique, les valeurs de la santé publique, les objectifs, l'approche, les méthodes, les outils, tous les instruments méthodologiques sont communs. En santé mondiale, on fait de la santé publique. Alors, dans l'idée de la santé publique, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une responsabilité collective pour soigner. Le problème de santé n'est pas juste un problème individuel et débrouillez-vous. On a une responsabilité. Alors, on a, c'est qui? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est la population? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est tous ensemble? Est-ce que ce sont nos représentants, etc.? Donc, finalement, à qui appartient la responsabilité de la santé publique, de la prévention, de la prise en charge, etc.? On voit bien aussi là l'idée d'une responsabilité collective et qui ne relève pas seulement d'un État ou d'un individu, mais qui est beaucoup plus vaste que ça et ensemble. Donc, pour protéger et promouvoir la santé de tous, sans préoccupation de l'âge, du genre, des appartenances socio-économiques ou des caractéristiques ethniques. C'est vraiment tout le monde, sans considérer les particularités. Alors, de la santé, ces auteurs proposent, pour expliquer l'émergence du concept de santé mondiale, une généalogie à partir de la santé publique, qui donc à un niveau plutôt national, est devenue internationale, on l'a vu au XIXe siècle, avec les conférences sanitaires internationales, puis la création d'un office permanent de santé, puis d'un office d'hygiène, etc., dépendant de la Société des Nations, puis la création de l'OMS au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc une évolution comme ça de la santé publique vers une dimension internationale. Mais ce que nous avons appelé, en lien avec les pays en développement, la santé et développement, donc toutes les problématiques de santé particulières et spécifiques aux pays en développement relevées de nous, ce qu'on a appelé dans le monde francophone santé et développement, pendant qu'en Angleterre, ils ont appelé cette notion d'internationalisation de la santé vers les pays en développement, International Health. Donc voilà, on pourrait dire santé internationale, et c'est le titre effectivement de notre ouvrage donc élaboré conjointement avec les étudiants et certains experts, mais l'idée vraiment qu'on comprend bien, c'est santé et développement. C'est 50 années de pratique de santé et développement. Et donc, voilà. Mais la géographie de la santé internationale, c'est les pays en développement et c'est l'offre d'un paquet minimum d'activités. Concrètement, sur le terrain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire offrir des actions de prévention, de communication, d'éducation sanitaire, de vaccination, de planning familial, etc., mais aussi des offres de soins et des politiques de prévention, des programmes de maladies, paludisme, etc. Voilà. Alors que pour ces auteurs, la question de la santé mondiale, elle définit par plutôt l'ampleur des maladies, donc qui concernent plus de monde et au-delà des frontières, que la question de la localisation, géographie, pays en développement particulièrement. C'est au-delà de ça, c'est tout le monde, mais justement c'est du global et c'est moins spécifique vers ce qui concerne les pays en développement. Voilà, donc j'ai mis ce schéma qui est le schéma que vous retrouverez dans cette publication Towards the Common Definition of Public Health, où vous avez ce qui caractérise le Global Health, International Health, donc la santé et développement plus axé pays en développement, géographie, ici c'est global, et puis la santé publique, mais vous prendrez le temps de voir ça parce que l'image n'est pas très bonne ici. Alors, quelles sont les évolutions institutionnelles mondiales dans le début des années 2000 en faveur de la santé, justement, dans le cadre de ce concept? Alors, je vais passer de PowerPoint au fichier PDF. Voilà. Excusez-moi, parce que la slide n'était pas très bonne, donc je garde le fichier PDF. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces évolutions? Alors, ça, c'est tiré d'un rapport, cette slide, donc il vous montre les évolutions historiques de la création d'initiatives mondiales, et tiré d'un rapport qui vient d'être publié par Chatham House, qui est un centre de réflexion, donc un think tank en Angleterre. Et le texte s'intitule « The Role of the World Health Organization in the International System ». Donc là, vous avez vraiment toute l'histoire de l'OMS, et vous avez les évolutions des créations d'initiatives mondiales récemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusque dans les années 90, on intervient dans ces pays avec l'OMS comme structure de référence, une aide bilatérale qui va financer des interventions, le pays qui définit ses stratégies, et puis quelques ONG qui interviennent en appui. Donc le paysage est assez simple, et on s'y retrouve assez bien avec un nombre d'acteurs limité, bon, et les instituts de recherche, etc. Mais au niveau donc de la mise en œuvre pratique, vous avez un nombre d'acteurs limité. Petit à petit, dans les années 90, vous allez avoir au moins deux grands nouveaux acteurs, Banque mondiale et Commission européenne. Alors, on voit souvent la Banque mondiale mentionnée. Elle intervient vraiment directement, et pas seulement en termes de financement, mais en termes de politique de santé également, de propositions de réformes de santé, donc avec déjà une gouvernance qui va se batailler quelque part avec l'OMS. Le leadership de l'OMS est déjà bousculé par l'intervention massive à la fois politique et financière de la Banque mondiale. On parle moins souvent de la Commission européenne, mais on y reviendra dans un cours donc consacré spécialement sur le Fonds européen de développement. Mais la Commission européenne entre en scène également au début des années 90. Le premier document sur la question de santé dans le cadre du Fonds européen de développement, c'est 1994 à la Commission européenne. Donc deux gros acteurs pour financer la réforme des systèmes de santé. Donc le paysage se diversifie déjà à ce moment-là. Mais dans le début des années 2000, on va assister à la mise en place donc, de partenariats publics-privés mondiaux, comme le Fonds mondial donc, de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et vous avez également l'Alliance Gavi, l'Alliance mondiale pour la vaccination et l'immunisation, là, qui va s'intéresser pour développer la couverture vaccinale des enfants notamment. Et alors, vous voyez que Gavi précède le Fonds mondial, donc c'est un partenariat public-privé mondial également, et qui est créé en 2000 avec des financements de la fondation Bill et Melinda Gates. Le Fonds mondial est instauré par un financement collectif, donc des bailleurs de fonds classiques, américains, français, etc. Et la fondation Gates va financer également. Donc vous avez au sein de l'institution de l'OMS la création de partenariats également, spécialement pour paludisme, Rollback Malaria ou Stop TB Partnership, uniquement pour la tuberculose. Vous voyez comme ça, donc les maladies bénéficient comme ça, de manière singulière, de programmes mondiaux spécifiques, ou alors trois maladies pour le Global Fund. Et tous ces partenariats public-privé mondiaux sont créés dans les années 2000, et concerne surtout, comme vous l'observez, les maladies infectieuses. Alors, je reviens à mon PowerPoint. Pardon, voilà. Alors, qu'est-ce qui est nouveau finalement dans ce paysage ? Les acteurs en présence, donc ils sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus nombreux. Au-delà des États, donc de l'OMS et des ONG, et de ce qui était connu avant, de l'aide bilatérale, on a vraiment une diversification très importante avec des fondations. Alors, les fondations américaines, on a vu que ce n'est pas nouveau. La fondation Bill and Melinda Gates, qui a aujourd'hui un budget de 4 milliards de dollars par an pour des interventions dans les pays en développement, n'est pas la première fondation à s'intéresser aux questions de santé. C'est déjà la fondation Rockefeller depuis une centaine d'années, 1913, a développé des programmes santé. Et ce que je trouve très intéressant par rapport à la fondation Rockefeller, c'est qu'elle a financé d'abord des interventions de l'Association américaine de santé publique pour internationaliser les activités de l'Association américaine de santé publique. En 1959, donc il y a déjà plus de 50 ans. En France, la Société française de santé publique vient juste d'adopter une commission internationale et un groupe de travail sur l'international. Et donc, alors que la coopération américaine a été... sa compétence en santé internationale venait de la compétence de Léona Baumgartner, qui était à l'Association de santé publique. En France, on observe plutôt l'inverse. Ce sont les coopérants, ce sont les anciens coopérants, ceux qui ont travaillé dans le domaine de la santé et développement, qui vont inspirer l'Association française de santé publique pour créer, et puis ceux qui travaillent aussi au niveau international de l'OMS, etc., pour inspirer les politiques sanitaires de santé publique. Donc, vous voyez comment se développe de manière très différente les dimensions internationales des associations. Ça, c'était une petite parenthèse. Alors, les acteurs sont beaucoup plus nombreux. Alors, quels sont les nouveaux acteurs, finalement ? Si les fondations, ce n'est pas tellement nouveau, les ONG non plus, même s'il y en a beaucoup plus, etc. C'est le secteur privé, industriel et commercial. C'est vraiment le nouvel acteur de la santé mondiale, des partenariats publics-privés mondiaux, l'industrie pharmaceutique, mais pas seulement, les entreprises également. Parce que les entreprises ont créé, par exemple, le Global Business Coalition Against HIV/AIDS. Donc, les entreprises industrielles et commerciales se sont mises à investir sur la question de la lutte contre le sida et à développer des programmes de prévention et de prise en charge du sida au sein de l'entreprise et pour les travailleurs et pour les employés, dans tous les pays où ils interviennent, donc dans les pays en développement notamment, parce qu'ils ont découvert, et des études l'ont montré, c'était rentable pour l'entreprise de faire ça. Et pas coûteux, mais rentable en termes de productivité des travailleurs, etc. Donc c'est assez intéressant de voir que les entreprises... Bon, maintenant, la Global Business Coalition Against HIV/AIDS est devenue Global Business Coalition Against AIDS. Donc il y a le secteur privé industriel et commercial. Et la combinaison aussi de notions d'humanitaire et développement. Avant, on avait une distinction, l'humanitaire intervenait au travers d'une association, dans l'assistance, etc., le développement par les structures de l'État dans le pays. Et maintenant, on voit avec la notion d'urgence de la création du Fonds mondial et de PEPFAR que l'humanitaire, cette notion d'urgence et de verticalité, du coup, on va pas, quand on fait quelque chose en urgence, on va installer des structures parallèles dans le pays. On ne va pas passer par les systèmes de santé nationaux ou les structures nationales forcément pour aller vite. Comment on va mettre en place des interventions de prévention et de prise en charge à intervention rapide, si je puis dire, avec des systèmes de santé qui ont toutes les difficultés qu'on connaît dans les pays en développement. Alors, ce qui est très nouveau aussi, c'est le volume des financements publics et privés, surtout américains, en faveur de la santé. C'est donc un quart de l'aide au développement, le montant de la santé. Les montants financiers en faveur de la santé ont été multipliés par 4 entre 2000 et 2007, donc vraiment une très très grande expansion de volume d'aide à la santé, mais surtout pour le sida et surtout en provenance donc, de financements américains très importants, le PEPFAR gouvernemental et de la fondation Bill & Melinda Gates et des autres fondations pour le privé. Les modalités de transfert de financement aux pays pauvres ont changé. Jusque-là, on avait cette aide bilatérale projet avec une mise en œuvre assez simple sous forme d'un contrat bilatéral avec l'État ou une structure en charge d'un projet. Dans le contexte d'évolution de la santé mondiale, on a une mobilisation de financement collective à l'échelle internationale, plusieurs bailleurs de fonds, vont donner des financements à une structure partenariat public-privé mondial et cette structure va mettre à disposition ces financements à l'intention des pays. On va voir comment tout à l'heure. L'aide bilatérale devient aussi quelque part globale parce que l'aide bilatérale qui passait par des projets maintenant va passer par le budget de l'État, par le Trésor par exemple. L'aide budgétaire générale des pays anglo-saxons ou de l'Angleterre et de la Commission européenne va passer par le budget de l'État plutôt que par un projet ou même par le ministère de la Santé. Donc là aussi, l'idée est toujours de mettre à disposition beaucoup plus d'argent pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et donc de trouver des canaux de financement plus faciles pour mettre à disposition beaucoup plus d'argent. Et donc les modalités innovantes de financement, donc ça c'est vraiment typiquement la nouveauté aussi des initiatives mondiales, avec l'idée de prélèvement de taxes sur l'achat de billets d'avion, la création de United par exemple, qui permet d'acheter des médicaments pour le sida, le paludisme, la tuberculose, pour des formules pédiatriques, pour des médicaments, des protocoles de seconde ligne, pas les médicaments ARV, par exemple, des médicaments antirétroviraux de première intention, mais des médicaments beaucoup plus élaborés, beaucoup plus chers aussi, de seconde intention, quand les patients présentent des résistances au protocole de première intention. Donc ça, c'est la mission de United, très rapidement résumée. Ce qui est nouveau, c'est le retrait de l'assistance technique long terme. L'aide bilatérale dans les pays s'accompagnait d'une assistance technique de long terme basée sur place qui travaillait conjointement avec les équipes projets là-bas, des structures publiques ou des structures associatives, enfin de toute une série d'acteurs. Ce qui est nouveau dans les années 2000 avec la santé mondiale, c'est que ces partenariats publics-privés mondiaux ont leur siège au nord et leur personnel en charge, administrateur, reste dans les sièges, même s'ils font des petites missions de courte durée dans les pays. Mais il n'y a plus cette collaboration permanente sur le terrain. Et donc, il y a une perte de contact quand même, une sorte de déréalisation. En plus, les transformations sont très, très rapides. Les réalités des pays en développement changent énormément. Et les personnels, donc, ils vont ponctuellement, mais ce n'est pas la même chose que de travailler en permanence ensemble et réfléchir ensemble et essayer de résoudre les problèmes ensemble sur le terrain. Et puis, c'est une question d'échange de savoir. Quand on est sur le terrain, on apprend énormément de nos partenaires. Ils nous apprennent beaucoup. On a le temps de discuter, d'envisager les problèmes de manière peut-être plus pertinente. Alors que quand on passe en mission comme ça, très rapidement, on n'a pas la même relation, on n'a pas la même appréhension des réalités. Et même si on est très bon administrateur, on ne va pas influencer et répercuter des connaissances de terrain aussi fiables et pertinentes dans les stratégies qui sont proposées par les institutions du Nord. Alors, il y a aussi le fait que ces nouveaux partenariats publics-privés mondiaux sont d'abord des instances de financement. Ce ne sont pas des instances de mise à disposition d'expertise ou de stratégie. C'est vraiment des instances de financement et il faut bien comprendre ça parce qu'on ne peut pas attendre du Fonds mondial qu'il soit pertinent du point de vue stratégique. Ce n'est pas son mandat, il n'a pas été créé pour ça. Il est très attaché au fait que la question de la stratégie et de la pertinence de la réponse à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme relève en tout premier lieu des pays. Donc, il est très attaché à la question de l'appropriation par les pays de leur réponse nationale. Et lui intervient pour financer à la demande des pays en fonction des priorités identifiées par le pays. Alors, justement, c'est très intéressant au départ comme approche et c'était vraiment très nécessaire d'avoir des financements en plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un pays d'avoir une réponse pertinente quand la recherche est très peu développée, quand les évolutions sont très rapides et que le pays n'est pas en mesure vraiment d'avoir une bonne compréhension de la dynamique de propagation des maladies dans son pays, de où se produisent les nouveaux cas et comment cibler, justement avoir des interventions qui ciblent exactement là où se produisent les nouveaux cas et les déterminants de propagation quand on a une connaissance difficile et pas toujours précise de ces éléments au niveau national, faute de financement de la recherche notamment, la recherche pratique, épidémiologique, économique, identifier des réponses efficaces, peu coûteuses, des choses comme ça. Il y a beaucoup de recherches opérationnelles à mettre à disposition des autorités sanitaires pour qu'ils aient les éléments, qu'est-ce qui marche à plus bas prix pour être efficace et efficient dans leur stratégie. Donc la question de l'appropriation, elle est intéressante, mais elle s'accompagne du coup d'une nécessité d'avoir beaucoup plus d'informations à la disposition. Alors, de ces évolutions donc, que je viens de vous décrire, découle une nouvelle gouvernance, par exemple, entre partnership et leadership. Donc on l'a parler entre OMS et Banque mondiale en termes de légitimité, puisque la Banque mondiale a investi le champ de la santé, on l'a vu, mais aussi donc entre l'ONU et le Fonds mondial. Alors c'est justement là qu'interviennent les questions d'aspect technique. L'ONU a l'expertise. Les agences de l'ONU, OMS, UNICEF, ONU-SIDA, etc., ont les experts. Le Fonds mondial est l'agence qui va financer. Mais comment ce partenariat fonctionne-t-il en appui au pays pour justement que la stratégie élaborée par le pays soit pertinente avec l'appui technique des agences de l'ONU sur place qui sont représentées, elles, dans les pays. Hein, l'UNICEF, ONU-SIDA, OMS sont représentées dans les pays. Donc le partenariat ici entre les agences de l'ONU et le Fonds mondial n'est pas une agence de l'ONU. C'est une instance financière indépendante. Comment va fonctionner ? Il va fonctionner pour que tout cet appui technique et financier se déroule dans de bonnes conditions. Ce n'est pas toujours facile, ni pour les pays, ni pour les instances qui, en outre, ne sont pas toujours ensemble sur place. Voilà, donc ça vous donne quelques exemples de cette nouvelle gouvernance. Il y a aussi la question du global et du local, parce que dans l'approche locale, elle est très importante donc, pour nourrir les stratégies internationales, et on voit un petit peu cette déconnexion au fur et à mesure que de plus en plus de partenariats sont créés au niveau global, les réunions se passent au niveau global, les concertations, etc., beaucoup au niveau global. Alors oui, les pays sont représentés, ils sont représentés au conseil d'administration de Gavi, ils sont représentés au conseil d'administration du Fonds mondial et de ces partenariats, mais sous quelle forme, par qui porte la voix des pays, et est-ce que les réalités aussi diverses d'un pays à l'autre sont prises en considération? De toute façon, toutes ces choses doivent être abordées au niveau local, justement, et cette gouvernance aussi entre différentes agences aux côtés des autorités sanitaires au niveau national. Et c'est là que c'est très important de garder le pied sur qu'est-ce qui se passe finalement au niveau national en termes de réalité et de réponse en concertation. Alors, la santé, je signale ça, est un laboratoire d'études du champ de l'efficacité de la santé, est un secteur qui a été choisi par l'OCDE dans le cadre de la Déclaration de Paris, de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, pour illustrer justement les questions d'efficacité d'aide. Vous trouverez ces documents très intéressants sur le site de l'OCDE, puis j'y reviendrai un petit peu la semaine prochaine. Alors voilà, j'avais juste résumé, mais je viens de vous montrer bien. Donc, qui sont les agences techniques et qui sont les instances de financement? Donc, du côté des aides bilatérales, c'est pareil, hein, les aides budgétaires générales, les aides sectorielles, tout ça sont d'abord des instruments de financement. Après, toute une dynamique de dialogue politique sectoriel doit intervenir dans le pays entre le ministère des Finances, qui reçoit ces financements, et le ministère de la Santé, qui est chargé donc d'améliorer ses résultats, sa couverture sanitaire, etc., avec les financements. Donc le Fonds mondial financement, le PEPFAR, c'est du financement, même s'il y a des personnes qui administrent ces projets dans les pays bénéficiaires. Donc c'était une quinzaine de pays bénéficiaires les plus concernés hein, par la pandémie de sida au départ. UNITED, c'est aussi un mécanisme de mobilisation, donc de financement pour de l'achat, vous voyez. Donc il faut bien faire la différence entre ces dimensions. Alors, je regarde si on a le temps. Non, on n'a peut-être pas le temps d'aller trop dans le détail du Fonds mondial. Mais très rapidement, le Fonds mondial a été donc mis en place par la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies le 27 juin 2001. C'est la déclaration d'engagement de l'Assemblée générale des Nations Unies pour le sida. C'est une date très importante parce que c'est vraiment l'engagement mondial contre la maladie. Et c'est intéressant de voir que tous les deux ans, les pays doivent produire un rapport de réalisation des objectifs de lutte contre le sida dans leur pays. Et à la fois du point de vue du changement des comportements de prévention face aux risques et à la fois des changements épidémiologiques. Enfin, ces rapports qui s'appellent rapport UNGAS, United Nations General Assembly Special Session, donc c'est le suivi de la mise en œuvre de cette déclaration d'engagement tous les deux ans, sont vraiment des sources d'informations intéressantes sur l'état de la situation de la pandémie de sida dans le pays, des réponses à la fois en termes comportementaux et des réponses au niveau sanitaire, des stratégies. Bon, voilà. Donc, le Fonds mondial, c'est donc mobiliser donc entre les bailleurs au niveau global, dépenser, mettre à la disposition des pays et justifier donc de l'efficacité, de la performance des programmes. Alors, j'ai déjà un petit peu parlé donc, du fait que l'agence n'est pas représentée dans le pays, mais ils ont choisi d'avoir un agent local du fonds, et c'est un cabinet d'audit au niveau national qui va suivre la mise en œuvre des financements du Fonds mondial tous les trois mois, une fois que le projet est accepté par le secrétariat du Fonds mondial à Genève. Mais une des difficultés de la mise en œuvre de ces projets et de la supervision par l'agent local du fonds est que cet agent est d'abord un audit, un cabinet, une compétence financière, administrative et pas santé publique particulièrement. Donc les autorités nationales ont souvent mis en cause la question de la légitimité de l'agent local du fonds pour suivre une stratégie mise en œuvre au niveau national. Alors, rappelez-vous aussi que le Fonds mondial n'est qu'un des financeurs de la lutte contre le sida au niveau national. Je vous donne cet exemple, mais ils ne financent pas, ou à quelques exceptions près, des stratégies nationales dans leur entièreté. il va financer quelques aspects qui ne sont pas financés justement pour l'instant de la stratégie nationale dans le pays, mais vous avez d'autres bailleurs, la Commission européenne, la France, le Canada, les États-Unis, qui financent des stratégies nationales SIDA. Donc c'est un des acteurs dans un pays. Alors comment ça marche? Bon, là ça vous paraît une slide compliquée, mais je vais vous repérer dans cette slide. Là, on est dans le pays. Ici, on est plutôt à Genève. Voilà. Donc, vous avez un conseil d'administration du fonds, vous avez un secrétariat exécutif qui rencontre au board. Et là, vous avez l'examen, le Technical Review Panel, c'est le panel d'examen des projets soumis par les pays. Donc, comment ça se passe? Dans le pays, le Fonds mondial a suscité la création de Country Coordinating Mechanism, des instances de coordination nationale avec des organisations donc institutionnelles publiques, du gouvernement, des ONG, du secteur privé industriel et commercial, parfois des universitaires, etc., et les agences internationales d'aide dans le pays. Tout le monde ensemble contribue à financer, à mettre en place, à définir le projet qui va être soumis au financement du Fonds mondial. Donc ça, c'est très intéressant comme dynamique, parce que pour la première fois, ce n'est pas justement quelqu'un dans son coin ou d'une structure de l'État qui va développer le projet, mais tous ensemble. Alors, le processus est plus long, plus compliqué, mais très participatif. Et justement, les associations de personnes vivant avec le SIDA ou les associations de lutte contre le SIDA sont censées justement à la fois participer à l'élaboration du projet et être bénéficiaires des financements une fois le contrat est adopté. Alors, donc ce projet élaboré collectivement est soumis à ce panel à Genève d'experts indépendants qui va dire oui ou non, approuver le projet. Une fois qu'il est approuvé, le contrat est signé avec un bénéficiaire principal dans le pays qui peut être une agence publique ou une ONG. Enfin, bon, ça, il y a vraiment toutes sortes de bénéficiaires principaux, mais ça peut être le ministère de la Santé, ça peut être une grosse ONG qui va mettre en œuvre des activités avec, de toute façon, des sous-bénéficiaires. Le bénéficiaire principal ne va pas travailler tout seul, il va faire aussi des sous-contrats avec plein d'autres bénéficiaires pour que la lutte contre la maladie, SIDA, tuberculose, paludisme, soit vraiment au niveau national et le plus périphérique possible dans les régions, dans les districts, etc. Donc plusieurs partenaires et géographie maximum au niveau national. Voilà, donc vous avez lui, il est le seul responsable de l'exécution du projet vis-à-vis du secrétariat et le contrat est signé, vous voyez, grant agreement, la convention est signée entre le secrétariat et le bénéficiaire principal et lui, il rencontre au niveau local, dans le pays, à cet agent local du fonds en charge du suivi, mais d'abord financier plutôt que de la pertinence. Parce que qu'est-ce qui se passe finalement? C'est encore lui qui doit définir le CCM, qui doit définir des priorités pertinentes par rapport à la façon dont se propagent les maladies dans ce pays. Donc, est-ce qu'il a les éléments, etc. Donc, le projet défini là, mis en œuvre par le bénéficiaire principal, surveillé par l'agent local du fonds, et une personne du secrétariat en charge de ce pays, des programmes donc, signés avec ce pays, et qui de temps en temps va dans le pays depuis Genève pour travailler avec l'agent local du fonds et le bénéficiaire principal, et normalement le CCM. Et le CCM doit avoir un rôle aussi de pilotage. Une fois que lui, il est exécutant, le bénéficiaire principal met en œuvre le projet. Le CCM, ensuite, a un rôle de pilotage. Il doit veiller à la bonne mise en œuvre de l'ensemble du projet tel qu'il a été défini collectivement avec tout le monde. Voilà comment fonctionne un programme d'une initiative mondiale. C'est à peu près le même mécanisme pour l'Alliance Gavi pour la vaccination et l'immunisation et qui, là, va concerner donc, l'augmentation de la couverture vaccinale, l'achat de vaccins, l'introduction de nouveaux vaccins, hépatite B, par exemple, et là, prochainement, rotavirus, pneumocoque. Enfin, c'est l'intérêt de Gavi, c'est pas seulement de financer et d'étendre la couverture vaccinale sur un calendrier vaccinal connu, et classique, mais de permettre aux pays d'acheter et d'introduire dans leur calendrier vaccinal national des nouveaux vaccins qui sont chers, donc comme l'hépatite B notamment. Voilà, donc les enjeux du Fonds mondial, j'ai peut-être passé pour voir très rapidement les risques, puisque je vois que le temps passe. Donc, quels sont les risques de la notion de Global Health? Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, dans le passage de la santé internationale à la santé globale, le risque est justement de ne plus s'intéresser qu'à ce qui est commun et de perdre de vue la spécificité des problèmes nationaux, de perdre de vue le niveau local des réalités, des problèmes et qui sont spécifiques même d'un pays à l'autre, voire dans un pays d'une région à l'autre. Donc cette spécificité, la question des capacités institutionnelles des pays, des ONG à mettre en œuvre ces projets, des autorités nationales à avoir les éléments de leur politique pour nourrir leur politique, tout ça passe un petit peu inaperçu des évolutions actuelles avec ces grands partenariats, etc. Donc, encore une fois, il ne faut pas confondre le rôle financier d'un rôle qui n'ont pas technique, etc., et qui relève donc du pays, des autorités nationales, mais qui devraient en avoir tous les éléments à leur disposition pour être pertinents. Alors, le risque aussi avec les financements innovants, donc ces nouvelles instances comme United, la facilité financière de Gavi, parce que Gavi a mis aussi en place un mécanisme de financement particulier, donc intéressant parce que ce sont des mécanismes qui aident à augmenter considérablement le volume d'aide, le volume de financement, mais c'est le risque justement à ne s'intéresser plus qu'au financement et à des mécanismes de mobilisation de financement plus que finalement à ce qui se passe dans les pays et en quoi ces financements qui ne sont pas un objectif en soi, en quoi ces financements plus volumineux, plus faciles à mobiliser sont effectivement un moyen d'améliorer la situation sanitaire locale, les capacités nationales, l'autonomisation, l'appropriation, etc. et ne sont finalement qu'un moyen et pas un objectif en soi. Alors, donc le risque de voir l'argent et le secteur privé dicter la politique. Ça, c'est un réel risque dans le cadre de la santé globale, parce que sous prétexte qu'on a beaucoup d'argent pour une fondation ou pour une institution, alors on va dicter, on va dire, moi j'ai beaucoup d'argent, mais je voudrais mettre cet argent sur ça, ça, ça. Et est-ce que ces choix qui sont faits par les grands financeurs sont pertinents? Est-ce que ce sont des choix prioritaires et à regarder, encore une fois, par pays? Voilà, autant de sujets donc, de négociation aussi qui pourraient être discutés dans le cadre des objectifs du millénaire en cours de négociation, enfin les post-2015, donc en cours de négociation. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que je voudrais faire une petite pause d'une ou deux minutes pour aussi préparer notre intervenant au séminaire et vous laisser peut-être deux minutes de pause avant de l'entendre. Je vous remercie beaucoup.